assemblée, nous pouvons aussi nous aider et nous encourager. Et donc, je visiterai cette assemblée dimanche prochain. Le titre est bizarre. Je m'en fiche, je m'en fous, je m'en balance. C'est pas mon problème. Le passage qui m'a été confié aujourd'hui, c'est la suite dans la lettre de Paul à Timothée. Et on va voir deux paragraphes. Et le premier de ces paragraphes, c'est 1 Timothée 5, versets 1 et 2. Et tout ce que Paul écrit à Timothée, c'est pour que l'Église d'Éphèse marche bien. Et nous pouvons considérer tout ce qu'il nous dit là pour que notre assemblée de Ransbech marche bien. D'accord ? Retenez-le, écoutez-le, gardez-le comme ça. Premier texte, 1 Timothée 5, versets 1 et 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Les jeunes hommes comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Premier paragraphe. Les vieux et les jeunes. Dans une assemblée, tiens, ça nous concerne, ça. Les vieux, c'est casse-pied. Toujours un siècle en retard. Toujours à faire la morale. À rappeler leur bon vieux temps, où il n'y avait même pas Internet. Ça rouspète, ça se répète. Ça oublie, et c'est lent. Et ça ne comprend plus rien. Amen. Les jeunes, ça n'écoute plus rien. Ça croit tout savoir. Ça veut tout changer. Ça bouscule, ça fonce et ça se casse la figure. Amen. Comment vous voulez que ça marche ensemble? Ces deux mondes différents qui ne se comprennent plus. Sauf si on commence à se regarder autrement. Comme des membres de la famille de Jésus. Comme des frères et des sœurs en lui. Où l'on respecte et apprécie les plus âgés. Comme des pères, comme des mères, pour leur sagesse, pour leur expérience, pour leur connaissance, pour leur exemple. Où l'on soutient et on encourage les plus jeunes, pour leur fraîcheur, leur enthousiasme, leur rêve, leurs dons. Une famille unie et aimante, où parce qu'on est attaché au même grand frère, on ne s'oppose plus. On se respecte, on se fait confiance. On se parle, on s'écoute. On s'accepte, on s'apprécie. Parce qu'il le veut ainsi, et parce que nous aussi, nous le voulons aussi. Et qu'alors, c'est son esprit qui le permet. Et ça devient un témoignage pour les gens qui nous regardent, dans un monde où il y a tellement d'indifférence, ils peuvent se dire, mais dis donc, c'est différent entre les vieux et les jeunes, dans une assemblée comme ça. Quelques remarques. Ce n'est pas un vieux qui exhorte l'assemblée d'Éphèse de cette manière-là, dans ce sens-là. C'est un jeune, Timothée, dont Paul dit, dans le chapitre 4, au verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Toi, le jeune, Tu peux devenir un modèle, un encouragement par ta conduite, par tes paroles, par ta fidélité. C'est toi le jeune qui va dire aux âgés comment il faut se conduire entre générations. Il n'est pas question non plus de faire une église de jeunes et une église de vieux. Certains ont cette tentation, mais ce n'est pas la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, c'est une maison de Dieu. Il le dit déjà, j'avais déjà vu ce message-là. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est un endroit où Dieu habite et où chacun a sa place. Les plus âgés et les plus jeunes. Ça, c'est la pensée de Dieu. Troisième remarque, c'est le premier mot. Il n'est pas question de dire ou de faire les choses rudement, avec mépris, avec suffisance. Ne réprimons pas rudement le vieillard. Ne le fais pas comme ça, avec mépris, mais avec douceur, avec patience, avec bienveillance, avec humilité, pour ne pas casser les relations. Nous devons tout faire pour ne pas casser les relations entre les jeunes, avec toute leur richesse, et les aînés avec toutes les leurs. Il faut faire attention. Et puis le dernier mot de ce petit paragraphe, en toute pureté. En toute pureté. Des relations en toute pureté, sans démagogie, sans manipulation, sans équivoque, sans attirer les gens à soi, mais à lui, notre grand frère, notre Seigneur, notre Sauveur, notre chef de famille. C'est lui qui nous rassemble. C'est lui qui fait qu'on ait des frères et des sœurs qui s'aiment. Jeunes et vieux. Amen. Mais bien aimé, qu'il en soit ainsi dans notre assemblée. Voilà le premier point, une église intergénérationnelle où chacun a sa place. Même des nouveaux comme toi, Maxime. Deuxième paragraphe. Si tu veux bien l'afficher, ce sont les versets suivants, 3 à 16. Honore les veuves. Les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car c'est agréable à Dieu. Celle qui, vraie veuve, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voilà ce que tu dois recommander, afin qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, recherchait toute œuvre bonne. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage et l'intrigue, en parlant de choses dont on ne doit pas parler. Je veux donc que les jeunes veuves, se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, afin de ne donner à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque croyante a des veuves chez elle, qu'elle les assiste, et que l'Église n'en ait pas la charge, afin de pouvoir assister celles qui sont de vraies veuves. Voilà, deuxième paragraphe qui m'a été confié aujourd'hui, je ne l'aurais jamais choisi, mais c'est bien qu'on en parle. Les veuves dans l'Assemblée. Il ne faut pas, premier point, il ne faut pas les négliger, les oublier. Elles font partie de la famille de l'Église. Surtout, peut-être même les plus vulnérables. surtout celles qui ne peuvent plus travailler, celles qui n'ont pas d'enfants ou de petits-enfants pour subvenir à leurs besoins, celles qui n'ont pas assez de revenus pour vivre, celles qu'il appelle les vraies veuves. Il faut veiller sur elles, il faut les entourer, il ne faut pas les abandonner. C'est d'ailleurs pour cela, dès la première église à Jérusalem, qu'on avait nommé, qu'on avait reconnu sept diacres pour prendre soin des veuves, parce que certaines étaient abandonnées, étaient négligées. Elles n'étaient pas d'origine juive, elles étaient d'origine grecque. Alors on ne faisait pas attention à elles. Attention, c'était important, il ne fallait pas faire de différence. Première raison pour laquelle on a choisi des diacres, c'était pour ça, pour s'occuper des veuves, pour qu'elles ne soient pas abandonnées. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas le CPAS. Deuxième point, il ne faut pas non plus que les veuves pensent que leur vie, elle est finie, qu'elle est inutile. Elles peuvent encore, peut-être même plus qu'avant, plus que jamais, aimer, servir, se donner pour les autres, prier, rassurer, conseiller, faire du bien, accueillir, dépanner des familles en difficulté. Je n'oublierai jamais une veuve que j'ai rencontrée à Genval, au Home Bethany, qui s'appelait Madame Decken. Je vous en ai déjà parlé peut-être. Avec son mari, elle avait deux enfants, deux fils. Pendant toute sa vie, elle avait appliqué un principe. Qu'est-ce que ferait Jésus à notre place? Et elle avait décidé, ben ça, on va le vivre. Et ça les a conduits à protéger des Juifs pendant la guerre. Et un jour, à la sortie de l'église, la Gestapo a fusillé le mari. Et elle s'est retrouvée toute seule avec deux fils. Elle a continué à s'occuper des fils jusqu'à ce qu'ils soient médecins, qu'ils aillent en Amérique, qu'ils aient leur propre chemin. Et là, elle s'est dit, maintenant je suis veuve et seule, qu'est-ce que je vais faire? Et on demandait des infirmières au Congo. Elle est partie pour être une infirmière au service des autres au Congo. Et elle l'a fait jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force pour le faire. Et à la fin de sa vie, elle est venue se réfugier au Home Bethany. Elle n'avait même plus la force de descendre à table pour manger. Elle était comme une petite plume dans son lit. On devait lui apporter tout. Et quand on la visitait, 10 minutes maximum, sinon son cœur n'allait pas supporter. Une faible petite sœur. Mais, quand j'allais la visiter, elle me disait, tu sais Jean-Claude, on ne va pas parler de mes bobos. Le Seigneur les connaît, il s'en occupe. Tu sais, quand je peux encore donner un petit coup de téléphone, c'est pour ça que j'ai fait installer le téléphone, eh bien je donne un petit coup de téléphone pour encourager les autres. Quand je peux écrire un petit mot, je le fais. Et chaque fois, je regarde la photo de mon mari qui est là au mur et je lui fais un clin d'œil, je lui dis, tu vois, Mchou, je continue. Une veuve qui ne s'est pas repliée sur elle-même, mais qui s'est dite, ma vie, elle a encore un sens. Même si ce n'est plus qu'une petite plume, elle a encore un sens. Merveilleux témoignage. Ne vaut-il pas mieux cela que de s'apitoyer sur son sort, sa solitude, que de courir de maison en maison, comme dit Paul, pour jacasser, pour médire et pour se plaindre? Bien sûr que ça vaut beaucoup mieux. Alors ma question, qui sont les veuves parmi nous dans l'Assemblée? Et là, je vais vous obliger d'y réfléchir pour ne pas les oublier. Alors, dites-moi, qui sont les veuves de l'Assemblée de Ransbech? Allez, allez, dites-le. C'est pas forcément les veuves qui vont le dire. C'est les autres qui... Je voudrais que les autres voient s'ils ont reconnu les veuves. Alors, dites, j'entends. Janine, c'est une veuve de l'Assemblée. Voilà. Christiane, qui est là. Oui, Christiane. Qui? Germaine, là-bas. Tout à fait. En voilà déjà trois. Françoise, oui, ça fait quatre. Eva. Notre plus jeune veuve. Mais c'est une veuve, tout à fait. En voilà cinq. Josette qui est là-bas. Je t'avais dit que je parlerais pour toi aujourd'hui. En voilà six. Qui? Josiane qui n'est pas là, qui est malade. En voilà sept. Et vous en avez encore oublié une. Ma belle-mère, Nona, Suzanne. Ma jolie maman. Voilà huit. Huit qui sont veuves dans l'Assemblée. Et il y a un veuf. Fernand, tu n'es pas veuve, je crois. Hein? Non, non. Oncle Ernest, lui, il est veuf aussi. On a 8 veuves et un veuf dans l'Assemblée. Alors, c'est bien qu'on les dit, parce que si on veut appliquer, il faut être attentif. Hein? Quand vous voyez Janine, vous allez la regarder autrement. Hein? Quand vous allez voir notre petite sœur Françoise, pareil. elles méritent notre attention. Certaines sont encore jeunes, d'autres pas. Certaines ont des enfants, des petits-enfants, d'autres pas. Mais toutes et tous sont précieux et sont utiles et ils sont dignes de notre attention, de notre affection. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Jusque, c'est Jacques. Jacques qui ajoute d'ailleurs dans sa lettre de visiter les veuves et les orphelins. Que ça, c'est vraiment selon le cœur de Dieu. N'oublions pas. Faisons particulièrement attention. Il y a Françoise qui dit oui parce qu'elle se sent souvent toute seule. C'est vrai. Alors, quelques remarques encore avant de conclure. Première remarque, il est normal, il est envisageable, on l'a lu, que des jeunes veuves se remarient. Alors, n'allez jamais critiquer ou culpabiliser une jeune veuve qui se remarie. C'était d'ailleurs le cas de ma petite femme. J'ai rencontré une veuve qui aimait le Seigneur et j'étais tellement heureux de prendre un relais, de l'épouser. Marie-Hélène, pareil Marie-Hélène, tu es une jeune veuve qui a pu te remarier avec ce bougre de Pierre. Premier point, il est normal que des jeunes veuves se remarient. Deuxième point, deuxième remarque, il est normal que l'Église ne doive pas intervenir matériellement. Écoutez, c'est important. Il est normal aussi que l'Église ne doive pas intervenir matériellement pour toutes les veuves. Seulement qu'elles interviennent que quand toutes les autres pistes ont été exploitées. Les moyens propres, les enfants, les petits-enfants, les services sociaux. On veut laisser cette priorité. Et c'est alors, quand malgré tout cela, une veuve est démunie, que les diacres interviennent. Il y avait des règles. Et on veut encore faire ça aujourd'hui. Troisième petite remarque, il est agréable à Dieu, au verset 3, que les enfants apprennent à honorer leurs parents. Moi, ça veut dire quelque chose, ce mot « apprennent ». Ça veut dire que peut-être qu'il faut faire des pas, et que faisant des pas, eh bien, on va progresser. C'est une école. Ce n'est pas automatique. Et puis, il est aussi dit que les enfants, il est agréable à Dieu que les enfants rendent à leurs parents ce qu'ils ont reçu eux-mêmes, qu'ils n'oublient pas tout l'amour, toute la patience, les soins, les nuits blanches, parce que pour faire un homme, mon Dieu, que c'est long. Mais n'oublions pas que eux, dans leur temps, ils nous ont donné tout ça, et que maintenant, peut-être que le balancier a changé de sens et que c'est à nous à veiller. Alors cela ne veut pas dire, et je le dis aussi, j'insiste, qu'on doive tout faire pour elles, tout faire à leur place, les infantiliser, c'est pas écrit ça. Ou qu'on doive subir un chantage affectif de leur part. T'en fais jamais assez, je veux que tu viennes tous les jours me voir. Non. Mais simplement les aimer et les respecter et veiller à ce qu'elles ne manquent de rien. Voilà ce qui est agréable au Seigneur. Je mets un petit plus. Aujourd'hui, il faudrait peut-être ajouter d'autres isolés, des divorcés. Et Paul ajouterait certainement les vrais divorcés, c'est-à-dire celles qui ont été jetées malgré elles, à cause de l'infidélité, de la violence de leur conjoint. Elles aussi ont leur place, elles ont leur rôle, avec les mêmes conditions, les mêmes priorités. Et elles aussi, nous devons faire attention. Conclusion. Comme chante Jean-Jacques Goldman, « Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens. » Il y en a un qui va le chanter là. « Tu es de ma famille, du même rang, du même vent, bien plus que celle du sang. Tu ne tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. » C'est pas beau ça. Jeune et vieux, entourés ou isolés, nous sommes sa famille, les siens, comme Jésus le dit dans les évangiles, avec beaucoup de tendresse, d'affection. Dès lors, Ce n'est plus nous qui sommes le centre, parce que nous le valons bien. Non. C'est Jésus qui est au centre. Et les autres sont bien plus que des figurants qui tournent autour de nous. Ils sont ses frères et ses sœurs, jeunes, isolés, veuves, plus âgés. Ils sont ses frères et ses sœurs. Et donc, ils sont aussi les miens. Trois mots doivent caractériser nos relations dans l'Assemblée. Le respect. La confiance et la prévenance. Plus question jamais, mes bien-aimés, vous m'entendez, plus question jamais de dire ou de penser « je m'en fiche, je m'en fous », ce n'est pas mon problème. Amen. Qu'il en soit ainsi.